conciliaire et sacrement,
c'est... il existe un piège, donc, lorsqu'on conciliaire et sacrement, c'est de les envisager par le petit bout de la lorgnette. Petit bout de la lorgnette qui est souvent adopté par ceux qui sont, disons, un peu chrétiens du bout du banc, enfin pas très coutumiers, en tout cas, qui n'ont pas reçu beaucoup d'enseignements et qui ne sont pas très pratiquants. Je prends pour exemple ceux qui, par exemple, veulent présenter dans notre paroisse leur enfant au baptême, voilà. Ceux qui entendent se préparer au mariage. Souvent, lorsqu'on leur demande à brûle pour point ce qu'est un sacrement, parce que s'ils viennent là, c'est pour que leur enfant en soit un, ou pour qu'eux-mêmes puissent en échanger un, puisqu'on échange le sacrement de mariage, la plupart du temps, c'est pas une véritable définition qu'on a à faire, c'est une description qui est un peu évasive, voilà, ils ne s'attendaient pas forcément à prendre la parole aussi vite, bon. Alors, ils nous parlent d'actes initiatiques, voilà, ce sont des cérémonies à travers lesquelles, enfin par lesquelles, on entre dans la communauté des chrétiens, ce sont des étapes à franchir tout au long de notre existence, grâce à Dieu que ce soit le cas, tout au long de l'existence. Voilà, mais c'est, vous voyez, en fait on est très attaché là à l'expression extérieure en fait, donc au rituel, et c'est très bien, hein, ces approches ne sont pas fausses, mais elles sont très réductrices. Ils peinent à comprendre qu'il existe une articulation des sacrements les uns aux autres, ce qu'on appelle en théologie ou en catéchisme l'organisme sacramentaire. Et ils peinent surtout à comprendre qu'ils évoquent la bénédiction de Dieu, qu'ils veulent solliciter et recevoir le jour où sera célébré le sacrement, mais ils peinent à comprendre que dans le sacrement, il y a plus que ça, en fait. Il y a carrément la vie de la Trinité Sainte. Et alors, quand on leur dit ça, en général, ils sont assez stupéfaits, en même temps qu'un peu circonspects, parce que la Trinité, ça leur paraît quelque chose d'un peu lointain. Autant la bénédiction de Dieu, ça leur cause l'aide de Dieu, autant Dieu lui-même, voilà, c'est un peu plus gênant. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de prendre les choses par en haut, non seulement avec eux, qui ne sont qu'assez peu coutumiers avec les mystères de la foi et avec la pratique des sacrements, mais avec vous autres qui êtes davantage accrochés, si je puis dire, ou qui avez un peu plus de connaissances. Comment faire pour prendre les sacrements par en haut ? Eh bien, il faut retourner aux sources. Rien ne vaut un petit passage par l'étymologie, enfin un petit passage, disons, de terminologie. C'est ce que je vais faire dans un premier temps, mais essayons de ne pas vous perdre, parce que j'ai bien conscience que, en général, la terminologie a quelque chose d'aride, un peu rebutant. J'avais promis cette année que les enseignements seraient relativement concrets. Ce serait dommage, avec les sacrements, de ne pas être concrets. Mais là, il va falloir quand même qu'on ne pourra pas faire l'économie de cette espèce de boîte à outils, si vous voulez, terminologique. Voilà. Après, on verra comment, quelle perspective adopter pour pouvoir replacer les sacrements à leur juste place et à leur belle place. Voilà. Et puis enfin, je commencerai, je pense que je terminerai la prochaine fois, à véritablement définir ce qu'est un sacrement, et vous verrez qu'en pressant le citron, on arrive à faire un jus très substantiel, très nourrissant, et même si vous avez des notions, et plus que des notions pour certains, vous verrez qu'on gagne toujours à aller scruter ce que sont les sacrements, pour nourrir notre pratique sacramentaire notamment. Alors, quant au terme, vous savez qu'il y a deux termes qui, depuis l'Antiquité chrétienne, servent à désigner ce que nous appelons communément aujourd'hui le sacrement. Le plus ancien de ces termes, c'est un terme grec que vous avez forcément déjà entendu, mysterion, qu'on traduit sans trop de surprise en français par mystère, voilà. Nos frères chrétiens d'Orient, je vous le signale au passage, ne connaissent que cette expression-là. Voilà. Ils utilisent toujours ce terme mysterium pour lorsqu'ils veulent désigner un sacrement. Et nous autres latins, nous utilisons parfois, mais beaucoup plus rarement, ce terme-là, singulièrement pour désigner l'Eucharistie, la messe, hein, les saints mystères, ainsi qu'on appelle volontiers ce sacrement de l'Eucharistie. Mais nous autres latins préférons un autre terme, ou utilisons plus fréquemment un autre terme, que les Grecs connaissent mais qu'ils n'utilisent pas, qui est le terme de sacramentum, tout bêtement, donc, qui a donné le sacrement. Vous voyez, on commence avec des choses extrêmement rudes, âpres. Voilà. Alors, je vous fais grâce de toutes les subtilités que recèlent ces deux termes, de la longue histoire au gré de laquelle ils se sont imposés. Je vais me contenter quand même d'apporter quelques éléments, quelques précisions au sujet de ces deux termes, parce que je pense que ça permettra d'éclairer notre compréhension de ce qu'est un sacrement. Donc, je vais successivement envisager donc, le mysterion, le mystère, et puis le sacramentum. Mysterion, c'est un terme qui est tiré du vocabulaire païen. C'est un terme que les païens ont forgé, mysterion, à partir de deux termes grecs. Le premier terme, c'est muo, c'est un verbe qui veut dire fermer, muo, d'où le terme français muet, par exemple, le mutisme dérive de là. Muo, donc fermer, et plus particulièrement fermer la bouche. Voilà. Et un autre terme grec est aussi à l'origine du mysterion, c'est le terme mustes, qui est un adjectif et qui veut dire initié. Vous voyez, je trouve que c'est intéressant de voir que mysterion, qui désignera petit à petit ce que nous appelons les sacrements, vient de fermer la bouche, hein, se tenir quoi, et en même temps être initié. Il faut, pour bien comprendre de quoi il s'agit, considérer ce qu'on appelle les cultes à mystère, ou les religions à mystère, le culte de Mithra étant sans doute le plus emblématique de ces cultes pratiqués dans les religions païennes de l'Antiquité. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, le mysterion, c'était quelque chose d'indicible, une réalité qui avait à faire avec la divinité, les divinités, enfin une force surnaturelle, qu'on ne pouvait pas connaître en soi, et donc il était interdit de parler, sauf à être initié. Par l'initiation, progressivement, on accédait à une connaissance de cette réalité mystérique, et on était même en mesure d'en parler. Encore ne pouvait-on en parler qu'entre initiés. Ça va jusque-là ? Je ne pense pas que ce soit des choses très nouvelles, parce que c'est... Voilà. Parce que tous vous appartenez à des cercles... Bref. Voilà. Oui, c'est référencé, évidemment, tout à fait... oui, c'est la pratique coutumière des Rosicruciens et autres francs-maçons. Voilà. Alors, vous voyez, il y a là quelque chose qu'on va retrouver, en fait, quant au sacrement. C'est une réalité qui, par soi, est inaccessible, dont on ne peut rien dire, dont on va faire l'expérience, mais que progressivement, par le biais d'une initiation chrétienne, bien sûr, on parlera des sacrements de l'initiation, eh bien, petit à petit, on est en mesure de connaître cette réalité mystérieuse et d'en rendre compte de manière raisonnable, articulée. Mais ça demeure toujours, ultimement, quelque chose d'ineffable, quelque chose de mystérieux au sens commun du terme. Ça va ? Alors, les auteurs, donc ça, c'est dans le contexte païen originel, le mysterion, dans les cultes à mystère. Les auteurs de juifs qui ont contribué à l'élaboration de l'Ancien Testament vont utiliser ce terme, mysterion, mais ils vont en changer la signification. Le mysterion dans l'Ancien Testament, ça désigne la révélation que fait Dieu, le Dieu unique, le vrai Dieu, à son peuple, par l'intermédiaire de personnes élues, que Dieu a lui-même choisies, à qui il va inspirer des visions, des songes, et qui vont rendre compte auprès du peuple de ce qu'ils auront perçu à travers ces songes, à travers ces motions surnaturelles. Ça va ? Voyez un peu, on reprend le substrat du paganisme, mais on le, j'allais dire, on le christianise, non pas encore, on le judaïse, enfin voilà, on le rectifie. Désormais, c'est plus une espèce de délire mystique dans lequel on entre par l'intermédiaire de prêtresses, vous voyez, les vestales et tout comme ça, et de larges orgies, parce que c'était quand même comme ça que se pratiquaient les cultes à mystère, très souvent. Hein, une espèce en fait, il faut oser le terme, d'orgasme par lequel on pensait entrer en contact avec le divin. C'était quand même très, très, très basique, voilà, ou la pitié de Delphes qui entrait en extase simplement parce qu'elle était sur un gouffre de soufre qui la mettait dans un état secondaire, mais dont en fait la médecine aura, pourra en rendre compte plus tard. Mais bon, voilà, et qu'elle prenait pour des inspirations mystériques et célestes. Là, rien de tout ça, pas de ça chez nous, enfin pas de ça chez les Juifs, c'est véritablement le mysterion, c'est la révélation de Dieu, en fait, ni plus ni moins, qui est transmise par l'intermédiaire des prophètes au seul peuple d'Israël. On fait un pas de plus, dans le Nouveau Testament, ce même terme de mysterion figure, je crois, une quinzaine de fois, pardon, une trentaine de fois, mais avec une nouvelle acception, on fait un pas de plus, une fois encore, on y désigne, mysterion dans le Nouveau Testament, ça désigne le plan de salut que Dieu a établi de toute éternité au profit de l'humanité. C'est ce plan qui était caché jusqu'à la venue du Christ. Et même, donc ça ne désigne pas seulement le plan du salut que Dieu a concocté pour l'humanité, qui va être dévoilé avec son Fils, le mysterion désigne même, en fait, la personne de Jésus-Christ. C'est, vous voyez, on a quelque chose de commun avec le mysterion païen. C'est un être que par essence, on ne peut connaître, on ne peut approcher, c'est le Très-Haut, c'est l'ineffable, voilà, c'est Dieu, dans son immensité et sa transcendance. Mais par le moyen de l'incarnation, il va se rendre visible, audible, vous connaissez comme moi, ces merveilleuses premières phrases de la première épître de Saint Jean, à propos du verbe de vie, hein, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, du verbe de vie, nous en témoignons pour que votre joie soit. Saint Jean est saisi, lui qui a mis la tête sur le cœur de Jésus, lui qui a vu couler le sang et l'eau sur le corps meurtri et mort du Christ, dit « c'est le verbe auquel j'ai accédé ». C'est le mystère que Dieu a de toute éternité, que Dieu est par son essence, et qui va se rendre accessible, rendre visible, mais de manière mystérieuse, dans Jésus de Nazareth. Ça va ? Vous voyez, je rappelle, je ne peux pas empêcher de rappeler les formules grandioses de saint Paul, parce que vraiment, tout est là, quoi. C'est le mystère de notre salut, quoi. L'ouverture de l'épître aux Éphésiens, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. C'est ça le mystère, c'est le plan de salut de toute éternité prévu par Dieu qui va se réaliser, qui va être rendu accessible au moyen de l'incarnation. Et encore à la première à Timothée, il est grand le mystère de la foi, ça dit quelque chose, il est grand le mystère de la piété qui a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé parmi les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Et ces formules sont très emphatiques, très juste titre. Et encore, elles n'épuisent pas le mystère, justement, que saint Paul essaye, avec des mots humains, de décrire. Et alors, ce mystère qu'est le Christ, en définitive, n'a pas à être caché, contrairement à ce qui se passe dans le cercle des cultes à mystère païens, où c'est vraiment un petit nombre d'initiés qui s'entretient et qui veut surtout cacher ce qu'il croit, ce qu'il fait, ce qu'il expérimente aux tierces personnes. Rien à voir avec ça, rien à voir non plus avec, peu à voir avec le mystère tel que les Juifs le concevaient, puisque le mystère est réservé au seul peuple élu. Et seul le peuple élu est en mesure, par la voix de ses prophètes, de comprendre le plan de Dieu, plan qui regarde au premier chef les Juifs. Non, dans le christianisme, le mystère auquel nous avons accès, ce Dieu fait chair, il doit au contraire être proclamé à toutes les nations, afin que le Christ soit tout en tous. Et ça, c'est la nouveauté, la dimension missionnaire, la dimension apostolique, voilà, le zèle essentiel au christianisme. Saint Paul le dit aux Romains, c'est la finale de l'épître aux Romains. J'annonce la bonne nouvelle du salut, j'annonce l'évangile, en proclamant Jésus-Christ, révélation d'un mystère, encore une fois, enveloppé de silence aux siècles éternels, mais aujourd'hui manifesté, porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi. Ça va, sur cette notion de mystère? J'espère que ce n'est pas trop sécos. Voilà. Bon. C'est pas très concret. Je m'en conviens. On est dans des grands principes, là. Mais promis, lorsque nous irons voir les sacrements, nous verrons très concrètement en quoi ça consiste. Et je me réserve le droit d'apporter un petit baigneur, un truc pour le baptême. Voilà. Alors, pour le sacrement des malades, on verra. Bon. Alors, sacrement de mariage, il y a des volontaires. Il y en a d'ailleurs. Mais... C'est au IIe siècle que les pères de langue latine, les pères latins, vont traduire le mot grec mysterion qui était le seul à figurer dans l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament, et qui était en usage dans la partie orientale, et une partie d'ailleurs de l'Église aussi occidentale qui parlait grec. Et ils vont utiliser deux termes pour traduire mysterion. Premier terme, ils ne sont pas trop foulés, les gars. Mysterium. Eh oui. Voilà, une latinisation. On peinturlure un peu le terme, et puis ça fait nettement plus latin, quand même. Qui reprend exactement ce que je viens de décrire du mysterium, donc je vous fais l'économie d'une redite. Et un autre terme, le fameux terme que nous utilisons tout le temps, sacramentum. Alors, à cet égard, je me permets une explication. D'où vient le terme sacramentum? Il n'est pas tombé comme ça de la tête d'un père de l'Église ou deux, après une bonne rasade. Et comme le terme mysterion, il trouve son origine dans le contexte païen, dans le contexte de la Rome antique. Et il désignait quoi, ce terme de sacramentum, dans le cadre profane de la Rome païenne? Eh bien, tout simplement le serment que prêtait un légionnaire au moment de s'enrôler dans l'armée. Un serment de fidélité qu'il se devait évidemment d'honorer. S'il ne tenait pas ses promesses, s'il n'était pas fidèle à son serment, il encourait, de la part des juridictions impériales, civiles et militaires, quelques petits désagréments. Voilà. On pouvait le priver de son existence civile. On pouvait le priver de son nom. Parce qu'en fait, il était maudit des dieux. Il était parjure, puisque c'est devant les dieux qu'il prêtait serment aux légions et à l'empereur. S'il était parjure, eh bien, il encourait la colère des dieux, mais comme celle-ci ne se manifestait pas au moment où on aurait voulu qu'elle se manifestât, il fallait être un peu le bras séculier de Dieu ou des dieux. Et donc, la personne était... on effaçait son nom, on la privait de l'exercice de sa citoyenneté, et puis ça pouvait aller jusqu'à des peines de prison et jusqu'à la peine de mort, en fonction de la gravité, de la trahison, voilà. Néanmoins, si la personne s'amendait à temps, elle pouvait bénéficier d'une amnistie. Et cette amnistie, je vous le donne en mille, comment on l'appelait dans l'Empire païen? La redemptio. Ah oui, on comprend du coup que les pères latins, dont un certain nombre d'entre eux étaient des officiers, soit des officiers d'armée, soit des officiers civils de l'Empire, pour beaucoup d'entre eux des juristes, avaient l'habitude donc de manier ce genre de termes, se soit dit, tiens, mais il y a un lien quand même entre ce qu'on nous présente comme le mysterium et ce que l'on définit par le sacramentum. Il y a un serment, on professe quelque chose, il faut y être fidèle, sinon on a quelques petits problèmes, et toutefois, si on se remet en selle, eh bien, on peut bénéficier d'une rédemption. Vous voyez, voilà. En fait, ils faisaient avec les moyens du bord, je ne manque absolument pas de respect à nos pères dans la foi, c'était les premiers de cordée, mais ils trouvent des termes pour être audibles des latins, et des termes qui en plus, enfin, des notions qui étaient assez coutumières aux gens simples pour qu'ils puissent piger de quoi il s'agissait lorsqu'il demandait les sacrements. On va te demander de prêter serment, c'est la profession de foi. On ne pas la profession de foi telle qu'on la pratique en France, vers je ne sais pas quel âge, 10 ans, 12 ans, mais la profession de foi baptismale, quoi. Cette profession de foi que l'on doit faire normalement avant de recevoir chaque sacrement, parce qu'on le fait dans le cadre de l'Eucharistie, et c'est assez net. Alors, on n'a pas le credo tous les jours, mais tout de même, lorsqu'on va se confesser, implicitement, on manifeste que l'on croit en ce Dieu auquel on vient quête, auprès duquel on quête la miséricorde, etc. Voilà, alors, ça pour ces deux termes, mysterium, sacramentum. Je ne suis pas sûr de vous avoir appris grand-chose, sinon peut-être l'origine païenne de ces deux termes. Mysterium, culte à mystère, et sacramentum, le serment du légionnaire. Alors, et ce n'est que progressivement que les termes mysterium et sacramentum vont désigner, à proprement parler, ce que nous appelons aujourd'hui les sacrements. Autrement dit, les actions rituelles, les actions cultuelles les plus importantes de l'Église. Mais auparavant, il a fallu, avant qu'on restreigne l'acception des termes mystère et sacrement aux seuls actes rituels, il a fallu que tout un travail se fasse en amont pour que ces actes cultuels soient placés dans leur juste perspective. Vous voyez qu'on ne tombe pas dans le travers que j'ai d'emblée indiqué, c'est-à-dire de voir des actes détachés les uns des autres, une espèce de tiroir, là, comme ça, dont on ne voit pas la cohérence, ou voire même des actes magiques, voilà, qu'on vient utiliser une fois de temps en temps quand ça ne va pas bien. Quoi. Hop, ça repart, un petit coup de vitamine, un sacrement, hop là. Non, la juste perspective, elle est tout autre, évidemment, sans doute. Il a fallu d'abord qu'on comprenne que les sacrements n'étaient pas strictement tombés du ciel comme ça, hein, ou sortis de la tête des hiérarches de l'Église, mais qu'ils s'enracinaient dans une histoire très longue et qu'ils devaient déboucher sur une histoire plus longue encore. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit ceci, au numéro 1152, « Les sacrements de l'Église n'abolissent pas, mais ils purifient et intègrent toute la richesse des signes et des symboles du cosmos et de la vie sociale. » L'Église récupère, assume tout ce qu'il peut y avoir de bon, de signifiant dans les religions païennes ou dans la vie profane. Mysterium sacramentum, c'est clair. On récupère et on verra. Je trouve ça, pour ma part, tout à fait passionnant de voir, pour chacun des sacrements, la récupération à laquelle l'Église a procédé volontiers, moyennant une purification quand même, un baptême, c'est le cas de le dire, une christianisation, foule, en fait, de symboles, d'institutions qui avaient cours dans les religions païennes ou dans le monde antique, profane. Vous voyez, donc, ils n'abolissent pas, mais purifient, intègrent toute la richesse des signes et symboles du cosmos et de la vie sociale. En outre, ils accomplissent les figures de l'Ancienne Alliance. Les théologiens du Moyen-Âge vont jusqu'à dire, à parler des rites de l'Ancienne Alliance en les désignant l'expression de sacrement, justement. Sacrement de l'Ancienne Alliance. Mais évidemment, il y a un gap, il y a un pas immense entre ces sacrements préfiguratifs, qui ne sont là que comme des préparations, donc, et puis les sacrements qu'institue Jésus, qui est en cours dans le christianisme. Mais tout de même, on montre qu'il n'y a pas une rupture, que l'on assume l'héritage glorieux d'Israël qui a été inspiré de Dieu même. Et alors là, les rites de la messe sont, c'est clair et net, bourrés d'héritage de l'Ancienne Alliance. Aussi bien de la liturgie du Temple de Jérusalem que de la liturgie qui est célébrée à la synagogue, que la liturgie même familiale, et singulièrement la liturgie pascale, la liturgie du sabbat. Et ça, on verra pour le... Même si je n'aurai pas tout le temps que je voudrais pour ça, vais devoir me contenter d'une soirée pour vous parler de la messe, mais c'est vraiment le sacrement de l'Eucharistie, c'est très frappant. Voilà, donc il signifie et réalise le salut opéré par le Christ et il préfigure et anticipe la gloire du ciel. Notre liturgie terrestre, la célébration de nos sacrements sur terre, sont une préparation, sont une participation même de la liturgie céleste, de ce qui est célébré au ciel. Alors, il n'y a pas de sacrement qui soit célébré au ciel, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en plus noble, en plus grand, en plus puissant. Voilà. Puisqu'il n'y a plus les médiations qu'on est obligé d'utiliser sur terre, et on est directement en phase avec la source de tout sacrement qui est Dieu, la Trinité Sainte. Vous voyez, donc c'est, je trouve cette précision du catéchisme de l'Église catholique très, très efficace. En quelques mots, on nous explique que les sacrements qui sont célébrés dans le cadre de l'Église s'inscrivent dans la continuité des sacrements, entre guillemets, de l'Ancienne Alliance, mais vont jusqu'à récupérer également un certain nombre de rites cosmiques des religions païennes et de la société civile, la société temporelle, et nous oriente d'ores et déjà, c'est pas seulement des béquilles, c'est pas seulement des moments hyper énergisants, c'est plus que ça, on est déjà en phase avec notre destinée. Nous sommes des citoyens des cieux, dit saint Paul, et c'est en tant que tel que nous célébrons les sacrements. Quand nous entrons dans l'espace sacré, du reste, qui est séparé du profane, on nous signifie bien que nous sommes dans une église comme si nous étions déjà au ciel. Alors après, on ne discute pas des goûts et des couleurs, mais pour les églises. Alors voilà. C'est ça. Donc il fallait déjà situer les sacrements, les actes cultuels chrétiens par rapport au plan historique, par rapport à leur préfiguration, par rapport à ces formes maladroites, mais tout de même belles pour une part, qui ont lieu dans le paganisme, et puis vis-à-vis du ciel. C'est pas des trucs qui n'ont aucune cohérence avec l'avant et avec l'après. Non. Et d'autre part, il fallait pouvoir situer les sacrements, ça fait l'objet d'un travail au long des siècles qui est magnifique, situer les sacrements par rapport au Christ et par rapport à l'Église. Et à cet égard, il se trouve que le cardinal Journet, Charles Journet, que je ne cesse de citer parce que je le trouve très lumineux, le cardinal Journet a écrit un ouvrage dans les années 70 qui s'appelait « Le mystère de la sacramentalité ». Mystère de la sacramentalité, qui est en fait une remise au propre d'une série d'enseignements qu'il a donné dans une retraite prêchée en 1973. Comme ça, vous saurez tout. Dans cet ouvrage, vraiment le secret de la sacramentalité, dans cet ouvrage, Journet présente de manière magnifique l'articulation entre trois réalités d'essence sacramentelle. Trois réalités dans lesquelles son conjoint, en fait, la divinité mystérieuse, inaccessible, et les éléments du créé. Parce que c'est ça un sacrement, fondamentalement. C'est l'union par Dieu d'un élément divin, d'un élément terrestre, et c'est la volonté par Dieu de se servir des éléments terrestres, de l'eau, du pain, du vin, de l'huile, pour véhiculer la vie divine, afin que cette vie puisse venir à la petite créature que nous sommes, sans que nous soyons effrayés, mais via des éléments qui ne nous effrayent pas, justement, parce qu'ils nous sont coutumiers. Ils sont issus de notre vie ordinaire. Et voilà comment il articule les choses. Il dit, il y a un sacrement primordial, c'est Jésus-Christ. Jésus est le sacrement, il l'appelle le sacrement de la vie divine en source. Les pères ont beaucoup, beaucoup utilisé le terme sacrement pour qualifier le Christ. J'y ai fait allusion tout à l'heure, disant que le mystère, c'était dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'était le plan de salut, mais en fait, réalisé dans le Christ. Ça va ? Le sacrement, fondamentalement, c'est qui unit Dieu et des éléments naturels, qui font passer Dieu dans des éléments naturels pour nous être accessibles, c'est Jésus-Christ. C'est lui le sacrement source. Et dans ce sacrement source, il se passe ce qui se passe dans tous les sept sacrements dont nous sommes coutumiers. Il y a à la fois un dévoilement et un voilement. On dévoile, par exemple, le sacrement du baptême, il est très éloquent, ce sacrement. On prend de l'eau qu'on verse sur le front ou dans lequel on trempe entièrement le catéchumène ou l'enfant, et cette eau est très signifiante. Elle montre qu'il y a un lavage au moment du baptême. On est lavé de la tache du péché originel. Voilà. Et en même temps que le sacrement dévoile cette action de Dieu qui vient purifier la personne de son péché, eh bien, ce sacrement voile aussi ce qui s'y passe. Parce que, à moins que peut-être certains d'entre vous aient été de grands privilégiés, et qu'au moment de la naissance de votre aîné, forcément, enfin du baptême, eh bien, les cieux se sont entrouverts, et que vous ayez vu, à la parole du prêtre, la Trinité Sainte descendre avec force, légion angélique, et tout le Gotha, bon, en principe, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, à la fois, ça nous dévoile quelque chose, ça nous explique, c'est extrêmement pédagogique, ça nous fait comprendre ce qui se passe, et en même temps, on reste sur notre faim, en quelque sorte, parce que ça voile le mystère. On ne voit pas Dieu qui, dans toute sa majesté, intervient et agit, ce qu'il fait pourtant. Vous voyez ? Et bien, dans Jésus Nazareth, on a ça. Il y a à la fois Dieu, le Fils éternel, qui se rend présent, qui nous montre les mœurs qui sont les siennes de toute éternité, sa bonté, sa toute-puissance, son esprit filial à l'égard du Père, et tout, et plein d'autres choses. Et en même temps, son humanité, donc, qui nous permet d'accéder à cela, de voir ce magnifique spectacle, et même d'être touché par lui physiquement, en même temps, cette humanité nous voile, pour une part, qui est le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, les contemporains du Christ, à commencer par ceux de son clan, vont être très dubitatifs vis-à-vis de ces affirmations péremptoires. Quand il dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il était avant qu'Abraham fût, qu'on pourra détruire son corps en 3 jours, il va l'autre, on se fout de lui. Et en fait, même les proches de son clan s'arrangent, à l'exception, on imagine bien, la Vierge Marie, ça y a pas besoin d'imaginer, c'est sûr, de peut-être certains très proches, Saint-Jacques, peut-être son cousin, ils veulent l'empêcher d'aller à Jérusalem, parce qu'ils vont il va leur fiche la honte. « Mais d'où viens-tu ? Je viens de Nazareth. » Ah, ouais. En Galilée, déjà, les gars de Galilée n'avaient pas trop bonne réputation, passaient vraiment pour des pécores, quoi. Avec des prétentions incroyables, ils se voulaient le clan dans lequel le descendant de David allait émerger pour reprendre le trône. Bon, on m'attendait, depuis quelques siècles. Et ça, les gars de Schnorr, ils avaient des prétentions, mais pas beaucoup d'actions efficaces. Et là, voilà qu'il y en a un qui est sorti de ce clan-là, et qui dit « Mais moi, je suis pas seulement le Messie, un petit malentendu, je suis celui qui suit. Suivez mon regard. » Bon, donc c'est... Ceux de son clan, c'est-à-dire ceux qui l'ont vu, qui ont grandi avec lui, ses cousins, quoi, et ses oncles et tantes, qui ont vu le petit enfant Jésus, etc. Ils en ont vu de très belles choses. Certes, c'est un homme d'exception, mais de là à le croire Dieu, il y a un pas qu'ils ne franchissent pas. Parce que son humanité qui à la fois dévoile qui est le Fils, ses mœurs, ce qu'il veut de nous, en même temps voile, pour une part, la majesté de sa divinité. Et c'est très, très bizarre. Hein, voilà. Donc le Christ, voilà, est le sacrement primordial. Et puis, sachant qu'il n'allait pas rester sur terre comme ça éternellement, il décide Et voulant néanmoins que toute l'humanité puisse accéder à lui, au salut qu'il offre, et physiquement, eh bien, il institue une sublime œuvre qui sera qualifiée par saint Paul d'épouse ou de corps du Christ. Vous voyez, de l'intimité qui existe entre le Christ et l'Église, il en est la tête, c'est-à-dire une indissociabilité, quoi. Et il en est l'épouse, et l'épouse qu'il garde jalousement avec une fidélité sans faille. Du coup, vous voyez, il y a une union vitale entre le Christ et l'Église. De même que le Christ est sacrement, il n'est donc pas étonnant que l'Église, son épouse, mais aussi son corps, ait la même structure fondamentale. De fait, l'Église, en son fond, est une entité mystérieuse, d'essence divine, qui est sans cesse jeune, qui est intendante de tous les mystères du Christ, qui a tous les bijoux du Christ, quoi, dont elle a été parée avec amour par lui, et qu'elle garde avec une fidélité sans faille. Et là, la capacité de communiquer à l'humanité la vie divine qui lui vient de sa tête, de son époux, qui est le Christ. Et en même temps, il ne faut rien voir de macronien là-dedans, en même temps, il y a une enveloppe humaine qui, à la fois, nous rend accessible, nous dit quelque chose, enfin, beaucoup de choses même, de cette entité mystérieuse qu'est l'Église, par sa hiérarchie, par ses rites, par sa doctrine, ses enseignements, par plein de choses. Sa structure humaine nous dévoile qui est l'Église dans son fond. Et en même temps, elle nous, c'est cette structure tangible, humaine, visible, met un voile sur la mariée, j'ai le dire, sur l'Église. Ça va? Vous voyez, de la même manière que l'humanité du Christ nous dévoile et nous communique quelque chose de sa divinité, de même l'Église, analogiquement, eh bien, va nous se montre à nous sous des dehors humains, montre qui elle est dans son fond divine à nous, et en même temps, cette humanité, cette apparence extérieure, cette enveloppe nécessaire de l'Église, nous cache quelque chose de sa merveilleuse identité. Pas seulement à cause des péchés de ses membres, bien sûr, ça c'est vrai, pas seulement à cause de l'imperfection de son fonctionnement, de ce qu'on veut, mais parce que ce sont des réalités humaines, donc nécessairement finies, nécessairement imparfaites. Ça va ? Et puis, le carnet de journée continue. Donc, l'Église est sacrement, le Christ est sacrement de la vie divine en source, c'est comme ça qu'il l'appelle. L'Église est sacrement de la vie divine communiquée. C'est comme ça que Journet l'appelle. Vous connaissez, comme moi, les sentences fulgurantes de Sainte Jeanne d'Arc ou de Bossuet. Hein. Mais d'avis que de l'Église et du Christ, c'est tout le temps. Voilà. Disait Jeanne. Et Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué à travers les âges. Vous avez compris cette union indissociable et cette continuation du Christ dans son épouse et son corps qu'est l'Église. Et donc elle est une épouse, elle est également une mère, elle est fécondée par le Christ en permanence, et elle va de son utérus merveilleux tirer de nouveaux enfants sans cesse à chaque génération, leur donnant la vie divine. Et puis comme c'est une bonne mère, une mère digne, elle ne va pas abandonner son gosse, elle va ensuite lui prodiguer toutes sortes de tendresse et l'éduquer, elle est mère et maîtresse. Elle va prendre soin de ce petit, le nourrir à son sein. Mais alors, il n'y a pas de sevrage, parce que si on commence à sevrer l'Église, on est mal. Donc on est toujours les petits, quoi, vis-à-vis de l'Église. Non pas les petits infantiles, les petits imbéciles, mais les petits qui, en tant que nous sommes totalement dépendants de cette mère, qui doit nous nourrir sans cesse de ces sacrements. Et donc les sacrements sont considérés, c'est le dernier échelon, si je puis dire, si vous voyez ça comme des poupées russes, ben voilà, c'est à l'extérieur, ce sont les qui sont considérés comme des touchés du Christ, médiatisés par l'Église, ce sont les œuvres que pose l'Église, voilà, à animé par la vertu qui lui est donnée par le Christ même. Ça va ? Et dans ces sacrements-là, on retrouve, les sept sacrements, on retrouve la même structure de fond que dans l'Église et que dans le Christ. Donc ce sont des actions divino-humaines. Le fond en est en soi inconnaissable. On ne pourra jamais faire le tour de ce qui se passe dans les sacrements parce que c'est d'une profondeur inouïe, d'une profondeur proprement divine. Et c'est Jésus qui agit quand même et qui vient nous donner sa vie. Je m'y perds tellement c'est beau. Vous êtes coutumier de mes digressions qui me mènent dans le cul-de-sac. Ça va me revenir. Il faut bien. Cette présentation des choses permet de toujours se souvenir que, à travers l'Église et à travers les sacrements, en réalité, il n'y a qu'une personne qui agit fondamentalement. C'est Jésus. C'est ce que dit très bien. Mais avant de bien comprendre ça, il s'en est fallu de querelles théologiques, de disputes, mais disputationnistes, donc dans le bon sens du terme aussi, pour faire avancer le schmilblick, enfin théologique en l'occurrence. Saint Augustin, par exemple, est obligé de dire. Vous savez, on se posait, mais j'en ai déjà parlé les années précédentes, à l'époque de Saint Augustin, était très, très prégnante la question du sort à réserver aux lapsus, hein, ceux qui étaient tombés, ceux qui avaient renié leur foi, par peur de finir martyr. C'est pas de mauvais bougre, mais voilà, ils avaient eu peur au moment où il ne fallait pas avoir peur. Et donc, ils avaient sacrifié à la statue de l'empereur quelques grains d'encens, laissant croire qu'ils pensaient que l'empereur était Dieu, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Surtout s'il s'agit de diacres, de prêtres, d'évêques. Imaginez le désordre, quand même. Et certains avaient une option extrêmement radicale. Ces gens-là sont déchus des sacrements qu'ils ont reçus. S'ils veulent revenir, déjà, ça ne va pas se faire tout seul. Mais en plus, il va falloir qu'on les rebaptise, reconfirme, réordonne. Et pas du tout, en fait. Les sacrements, même s'ils sont tombés, d'abord les sacrements qu'ils ont reçus sont toujours valides, enfin ils ont reçu une marque indélébile par ces sacrements, donc il est hors de question de rebaptiser, reconfirmer, réordonner. Mais en plus, c'est pas parce qu'ils sont tombés que les sacrements qu'ils vont dispenser sont inefficaces. On avait ça aussi derrière la tête. Ah ben ils ont trahi, du coup, crac, la source s'est tarie, Dieu ne leur donne plus rien, et surtout pas le pouvoir de célébrer les sacrements. Imaginez l'embrouille. Si nous étions en permanence obligés de scruter la qualité de vie du prêtre avant d'aller recevoir de lui un sacrement. Moi, je ne le souhaite pas, parce que bon... voilà, avec des caméras partout pour bien voir comment ça se passe, tous nos dires passés au peine fin, tac, tac, parce que s'il s'avérait que nous avions failli sur tel ou tel point, et que donc les sacrements que nous dispensions étaient invalides, du coup, ce serait mal barré pour l'ensemble de la communauté chrétienne. Ça ressemblerait vraiment à une espèce de société totalitaire où chacun surveille tout le monde, ou vice-versa. Donc, est intervenu Saint Augustin, qui a cette formule choc, il dit « ça n'est pas Pierre qui baptise, c'est Jésus qui baptise, ça n'est pas Judas qui baptise, c'est Jésus qui baptise. » Il fait exprès de prendre deux gus qui sont tombés, l'un qui s'est relevé et l'autre qui ne s'est pas relevé. Il dit, mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, les sacrements que dispensaient ces deux bons hommes, si tant est que Judas n'ait jamais célébré un sacrement, il n'a pas eu l'opportunité, je pense, eh bien, seraient parfaitement valides. Parce que c'est Jésus-Christ qui est garant de la validité des sacrements. C'est lui qui célèbre, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ce qui légitime, c'est ce qui même, en fait, nous enjoint à célébrer dignement autant que possible les sacrements. Parce que sans le chrétien, connaître quelle est ta dignité, toujours le même sermon de Saint Léon que j'aime bien vous citer, une certaine nuit de Noël, connaît quelle est ta dignité. Donc, on ne peut pas. Et le jour de son ordination, le prêtre s'entend dire ceci, imitez ce que vous célébrez. Conformez votre vie de plus en plus au saint mystère que vous célébrez quotidiennement. En fait, on pourrait dire ça à n'importe quel baptisé. Hein. Voilà. Les scolastiques utiliseront une formule que certainement vous connaissez, ex opere operato. Non ? Oui ? Ça ne paraît pas. Je ne suis pas très convaincu par vos. Non ? Bon, on y reviendra. L'effet ex opere operato, c'est-à-dire par le simple fait qu'un ministre. Légitimement ordonné, célèbre les sacrements, dit telle parole, utilise telle matière, permet, il y a un effet immédiat et infaillible de ce qu'il pose. Pourquoi ? Parce que c'est derrière Jésus qui parle à travers la bouche du ministre et qui agit, qui touche à travers les mains du ministre. Et excusez-vous, les papes Pie XII, enfin, le pape Pie XII dans Mediator Dei, donc c'est une encyclique qui est très belle, si ça vous dit au cours de cette année de méditer avec cette encyclique. C'est un langage peut-être qui va en agacer quelques-uns, parce qu'on va y parler avec le langage de son temps, très emphatique, très. Mais les formules de Pie XII sont d'une précision, d'une justesse qui est quand même assez rare. Et Mediator Dei, donc c'est une encyclique qui touche à la liturgie et à la célébration des sacrements. Et il dit que la liturgie, et donc les sacrements, la liturgie c'est l'écrin dans lequel se trouvent les plus belles perles, donc les sept sacrements. Et la liturgie, nous dit-il, c'est le culte public que Jésus rend à son Père. Et avec lui, que les membres de son corps, donc les baptisés, rendent au Père. Fondamentalement, c'est Jésus qui est le centre, le cœur, l'acteur principal de la liturgie. Et nous nous y engageons autant que nous pouvons, selon nos états de vie respectifs, selon les charges qui sont les nôtres dans l'Église. Voilà. Et le Concile Vatican II ne dira rien d'autre dans celle des quatre constitutions majeures où il est question de liturgie. Sacro Sanctum Concilium reprend la même chose. La liturgie, c'est le culte public rendu par Jésus à son Père et avec lui du peuple à l'instant. Ça va ? Oui. Monsieur Rigaud.
Ex opere operato, d'accord, mais néanmoins un prêtre peut être réduit à l'état laïque. Donc on sait bien que la sainteté du prêtre n'intervient pas dans la validité du sacrement, et pourtant, un prêtre peut se voir interdit, mais pas simplement interdit, hein, dans l'impossibilité de célébrer, alors qu'il est prêtre pour l'éternité. C'est quand même un peu mystérieux.
On y reviendra quand on. Je botte pas en touche, hein, mais on y reviendra quand on traitera du sacrement de l'ordre, justement. Parce que c'est vrai que c'est assez singulier, ça. Que le prêtre. Soit qui a été ordonné validement reste pour l'éternité prêtre, c'est la formule, hein, prêtre pour l'éternité, très vrai, et qu'en même temps, ce même prêtre puisse éventuellement se voir retirer la capacité de célébrer les sacrements. C'est pouvoir lié. Voilà. On y reviendra en temps et en heure. Pour l'instant, je veux juste. Je surveille l'heure quand même. Je veux juste, donc, vous, après avoir dressé un peu ce tableau d'ensemble de ce que sont les sacrements, donc Jésus, son corps mystique qu'est l'Église, son épouse, et puis les sept sacrements, je voudrais. Il faut que je précise quand même que le septénaire, le fait de s'être arrêté à sept sacrements, ni plus ni moins, est relativement tardif, figurez-vous. Dans l'histoire de l'Église, puisque dans la première moitié du XIIe siècle encore, en fait ça va se fixer au XIIIe, dans la première partie du XIIe siècle, des théologiens très éminents se disputaient pour savoir combien réellement on avait de sacrements. Mais des gens qui sont tout à fait recommandables. Alors le bienheureux, l'enfant du bec et loin, je pense que ça ne vous dira rien du tout, mais l'enfant, si. Je suis ébloui. Ah ben le bec, bon. Et alors, l'enfant, lui, par exemple, il relève quatre sacrements. Saint Bernard de Clairvaux, qui a fait un peu parler de lui au travers de l'histoire, lui, c'était 10. Et puis, Saint Pierre d'Amiens, lui, en voyait 12. Voilà. C'était pas une question de générosité personnelle, hein, évidemment. Il y en a un qui était plus large que d'autres. Pas du tout. On reviendra à cette. Voilà. Mais vous voyez qu'il a donc fallu que l'Église tâtonne, en fait. Jusqu'aussi tard, en fait, au mi-temps de son. Enfin, par rapport à nous, qui sommes le centre du monde, c'est le mi-temps de l'histoire de l'Église, quoi. Voilà. Quand même assez étonnant. Alors, néanmoins, la définition du sacrement va se fixer de manière de plus en plus précise. Et la formule définitive, en tout cas la plus précise, sera donnée par le Concile de Trente. Je fais l'économie de tous les conciles antérieurs, de tous les qui me pardonnent. Trente est dans une posture, vous savez, de contre-réforme, ou plutôt de réforme catholique, donc réassume, mettre les choses au clair sur l'essentiel de la doctrine, et notamment les sacrements, face à la contestation qui émane de la réforme, voilà, et qui déglingue une bonne part de l'édifice sacramentaire. La définition qui est donnée par le Concile de Trente est celle-ci. Il y a plusieurs endroits, les sacrements sont définis. Donc je prends une formule médiane habituellement utilisée. Le sacrement, c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce en nous. Signe sensible institué par Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce en nous. Alors je vois qu'ils rigolent au fond là, parce que c'est peut-être les définitions que vous essayez de faire apprendre à vos enfants qui sont à Saint-Pélix ou, voilà, ou vous autres, nos aînés, sans doute moins aînés peut-être, mais bon, pour la majorité des chrétiens français, c'était, voilà, lorsqu'on apprenait par cœur le catéchisme, la formule clé.
C'était pour nous aider à faire le bien et éviter le mal.
Bah oui, pas le petit rapprocher
de ensemble.
Exactement. Donc, signe sensible institué par Jésus pour produire augmenter la grâce. Je reprends, si vous permettez, chacune de ces trois composantes. Signe sensible institué par Jésus, produire augmenter la grâce. Un signe sensible, c'est un signe qui est accessible à nos cinq sens. C'est assez évident. Ce signe sensible, vous voyez, donc c'est vraiment l'objet de la condescendance de Dieu, en fait. Condescendance dans la meilleure acception du terme. C'est une miséricorde, en fait, un sacrement. Ce qui, par essence, nous est inaccessible, j'aurais dit la même chose depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la grâce, la vie divine, se rend subitement visible, audible, tangible par le moyen des sacrements. Comme nous sommes un être, pas seulement corporel, mais un être corporel doué d'un peu de raison, d'intelligence, eh bien, il est assez normal que le signe sensible soit constitué de deux éléments, qu'on qualifie de matière et de forme, c'est-à-dire une parole qui s'adresse à nos oreilles, mais par-delà à notre intelligence, une parole, il n'y a pas de sacrement qui se célèbre en silence, ça n'existe pas ça. Même dans des communautés très intimistes, il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de parole qui permet. Et on a besoin également d'un élément qui parle à nos cinq sens, donc une matière, un geste, un élément matériel. Donc ça va de l'eau, l'huile, ce que vous voulez, à l'imposition des mains, etc. Vous voyez, c'est ce composé-là qui s'adresse à notre intelligence en même temps qu'à nos sens, ou plutôt à notre intelligence via nos cinq sens. C'est vraiment le Très-Haut qui se met à notre portée. Et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué déjà, il le fait à travers des paroles, il le fait à travers surtout des gestes ou des éléments matériels qui nous sont coutumiers, qui ne nous effrayent pas. Imaginez si Dieu se manifestait dans toute sa grandeur, on serait contraint de célébrer les sacrements face contre terre, c'est un peu préjudiciable, en tout cas pour la messe, je ne sais pas comment ça se passerait, mais bon, ce serait un peu compliqué. Il vient comme à pas de loup, si je puis dire, discrètement, et il se met, c'est un père qui se met à la hauteur de son petit et qui lui parle dans un langage que le petit est capable de comprendre et qui accomplit des gestes qui n'effrayent pas le petit. Ces éléments matériels et cette parole, en soi, n'ont aucun pouvoir surnaturel. Enfin, l'eau qu'on utilise au baptême, c'est l'eau du robinet, quoi, qui est faite pour abreuver, qui est faite pour laver le corps. Enfin, les paroles prononcées comme ça, elles n'ont aucune efficacité surnaturelle. On ne fait pas descendre du ciel, enfin, vous pouvez vous y essayer, mais je vous souhaite bon courage. Vous pouvez répéter autant de fois que vous le voulez avec la ferveur habituelle qui vous caractérise, ceci est mon corps, ou hoc est enim corpus meum, pour les traduire, eh bien, ça ne marchera pas. Voilà. Il faut qu'intervienne Dieu. Il faut qu'intervienne Jésus pour donner à ces paroles-là, conjointement à ces gestes ou ces éléments matériels, la vertu de communiquer la vie de Dieu. Mais c'est quand même fou quand on y pense. Enfin, vous voyez, la folie de Dieu, la folie amoureuse. Dieu condescend à venir dans un pain de plus ou moins bonne qualité ou un vin et tout, quoi. Et en plus, il y reste. Donc il se met à la merci de tous les sacrilèges et de toutes les mauvaises utilisations qu'on pourrait éventuellement en faire. Voilà. Par amour, par pur amour. C'est quand même un truc fou. C'est donc un signe sensible qui est institué par Jésus. Alors, institué par Jésus, c'est là qu'il y a une petite... petite, c'est un euphémisme. Des grandes engueulades avec nos frères séparés. Enfin, avec... je suis complètement d'accord avec les orthodoxes. On pinaille, comme on l'a toujours fait à Constantinople, enfin à Rome aussi. Hein. Donc, on pinaille sur des détails, mais vraiment, c'est accessoire. Nous sommes d'accord sur le septenaire, nous sommes d'accord sur l'efficacité de ça. Et sur le fait que Jésus a véritablement institué les sept sacrements. En revanche, nous ne sommes pas d'accord avec la réforme et toutes les communautés issues des réformateurs qui ont réduit comme peau de chagrin ces sacrements, prétextant que dans l'Écriture sainte, dans les évangiles, on ne pouvait pas trouver autant d'endroits où Jésus semble instituer les sacrements que prétendent les catholiques et les orthodoxes. Et Jésus aurait institué un, voire deux sacrements max. Après, je crois qu'il est fatigué. Hein, voilà, donc, petite pique de temps en temps, avant de les embrasser. Hein. Vous voyez, c'est où porte le débat, en fait ? Ben, encore une fois, quand on se reporte à l'Évangile, où est-il avéré que Jésus voulait instituer les sept sacrements que nous autres catholiques et nos frères orthodoxes reconnaissent ? Il faut distinguer des sacrements qui ont fait l'objet d'une institution explicite, extrêmement nette, on ne pinaille pas, quoi, c'est pas possible, c'est trop net, et ceux qui ont fait l'objet d'une institution, disons, on va dire, plus implicite, plus médiate. Les deux sacrements, je vais vous faire participer un peu, les deux sacrements pour lesquels les choses sont très claires, quels sont-ils ? Ah, c'est beau d'entendre le mariage. Si, si, alors, soyez heureux que votre conjoint dise ça. Non, le mariage, non. Je vais vous dire, c'est même celui qui a posé le plus de problèmes. Non, mais je n'en tire aucune conclusion. C'est, quand on en parlera, et magnifique sacrement, à la fois, c'est quand même ce qui fait l'objet du premier signe, du premier miracle que Jésus accomplit, si l'on s'en tient à l'évangile de Saint Jean. Donc, il a une grande estime du mariage, et on a l'impression qu'il y a une priorité à restaurer cette union entre l'homme et la femme. Donc, voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais non, en revanche, ce n'est pas le plus explicite. Le plus explicite, c'est le baptême, vous l'avez dit, et l'Eucharistie. Exactement. En réalité, le plus explicite des deux, le plus net, qui nous donne à la fois les paroles qui doivent être prononcées de la bouche même de Jésus et la matière dans son détail, c'est l'Eucharistie, le Saint Sacrement. Le sacrement des sacrements, la clé de voûte des sacrements, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est pas étonnant que là, il y ait eu une précision encore plus explicite. Dans trois évangiles sur quatre, parce que Saint Jean n'y fait pas allusion, figurez-vous, il fait allusion d'une autre manière, par le discours du pain de vie, etc., mais il ne relate pas la scène, il va direct à ce qui suit la scène, c'est-à-dire le lavement des pieds, mais il occulte délibérément, hein, pas un oubli, ce qu'il était dans son grand âge. Voilà, il était à côté de Jésus. Donc. et dans les écrits de saint Paul, où on a prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang, et ensuite faites ceci en mémoire de moi. C'est pas discutable. Et la matière, on la connaît un peu dans le détail parce que c'est au cours d'un repas pascal que le Christ a institué l'Eucharistie. Il faut donc se reporter à tout simplement au livre de l'Exode et au livre du Lévitique pour savoir de quoi était fait le repas pascal. Un pain à zivre et un vin de raisin. Voilà. Le reste, d'ailleurs, on s'en fiche. Voilà. On ne verra pas les détails de type, mais quel genre de vin vous utilisez? D'abord, ce serait trop facile pour notre sacristain qui est au fond, qui sait très bien de quel vin nous servons, mais aussi parce que, voilà, bon, peu importe, il faut que ce soit du vin de raisin. Bon. Bref. Et l'eau, ça n'empêche pas les réformateurs de critiquer la doctrine catholique et la doctrine orthodoxe sur ce qu'implique. Tous sont d'accord, à moins vraiment d'être dans une communauté pentecôtiste échevée, malheureusement il y a de plus en plus, qui prolifèrent sur en fait, le sol brûlé de la réforme qui s'est effondrée pour une part, et très probablement aussi du manque de zèle apostolique de nous autres catholiques et de nos frères orthodoxes, c'est du délire. Enfin, c'est très bien de prier comme ça, et ils ont raison, la louange est tout très bien, mais il leur manque le cœur de toute communauté chrétienne. Je me demande comment ils peuvent encore se revendiquer chrétiens, ces gens-là. Il n'y a même pas le spectacle, si je puis dire, de la scène calviniste. C'est ce qu'au moins les calvinistes célèbrent chaque dimanche au culte. Vous voyez ? Donc, il y a un vrai problème. Parce que là, franchement, sauf à ignorer de larges passages des évangiles, je ne vois pas comment on peut justifier ça. Donc le Saint-Sacrement, enfin en tout cas le sacrement de l'Eucharistie, et le baptême, le baptême c'est légèrement, c'est en deux lieux qu'il faut aller chercher, le baptême du Christ lui-même bien sûr, qui se fait tremper dans l'eau par son cousin, bon très bien, encore que ce ne soit pas un sacrement de baptême qu'il reçoive lui, mais bon, le rite il nous l'indique ainsi, et puis quant à la forme, quant à la parole, c'est très net. Et puis pour que ces apôtres se souviennent bien, dans leur caboche un peu bouleversée par les événements récents, le jour de l'ascension, avant de monter à la droite de son père, il leur rappelle, au fait, on est d'accord, allez, de tous les peuples faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fin de communication. je suis avec vous tous les jours, quand même. Quand même. Heureusement que j'ai pas une âme de scénariste parce que ce serait un peu compliqué. De trouver une maison de poids. Donc voilà. C'est tellement important que, après leur avoir expliqué en long, en large, en travers, à Nicodème qu'il fallait renaître de nouveau de l'eau et de l'esprit, à la Samaritaine qu'il fallait adorer Dieu en esprit et en vérité, enfin tout ce qui a trait de près ou de loin, plutôt de près d'ailleurs au baptême, Jésus récapitule tout. La mission pour vous, c'est celle-ci. Quiconque sera baptisé et croira sera sauvé, qui ne croira pas sera condamné. Tac, terminé. Il ne dit pas qu'il ne croira pas et ne sera pas baptisé. C'est bizarre, on en parlera de ça. Les substituts du baptême, du sacrement. Ça va ? Donc, c'est les deux sacrements pour lesquels les choses sont claires. Maintenant, les cinq autres sacrements, eh bien, les choses sont. Parce qu'on a encore pour 5 minutes. Les choses sont implicites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais ça veut dire que le travail d'interprétation a été plus long. Voilà. Et qu'il a fallu, non pas ruser, mais il a fallu être docile à l'inspiration du Saint-Esprit qui voulait. On y viendra pour chaque sacrement, le fondement scripturaire évidemment est fondamental. Voilà. Notez une chose, peut-être, je crois vous en avoir parlé l'année dernière en fait, mais je me permets pour les impétrants. ou parce que il serait petit à plein de chèques, comme on dit en grec, eh bien, de vous rappeler le fait que nous jouissions nous autres, que nous ayons la foi dans les sept sacrements, c'est-à-dire la présence du Christ dans ces sacrements, est, doit être perçu par nous comme véritablement un privilège. Une chance, enfin une grâce, on dit dans le langage théologique, une grâce insigne. Parce que lorsqu'on regarde, oui, je vous en ai parlé, bien sûr, parce qu'en parlant de la conception de la rétribution chez les Juifs, dans l'Ancienne Alliance, surtout dans l'Ancien Testament, et l'évolution de cette notion de salut, vous rappelez, ils concevaient une rétribution, hic et nunc sur terre, en écus sonnant et trébuchant. Dieu me bénit dans ma fécondité, dans mes entreprises, dans le fric que je gagne et que je conserve, et tout ça, ce sont des rétributions temporelles qui me sont données si je suis obéissant, si je suis fidèle. Voilà. Et que Dieu me retire si je commets quelques péchés. C'est simple. Eh bien, les protestants qui ont répudié 5 sacrements au moins, figurez-vous, ont la même question que nous, et parfois même de manière angoissée. Suis-je sauvé ? Serais-je sauvé ? Suis-je aimé de Dieu ? C'est quand même capital dans le cœur d'un chrétien, franchement. Bon, ça ne nous lance pas assez, je pense. En tout cas, c'est ceux qui vous parlent, on est convaincus. Mais voilà, il faudrait que ça soit un peu plus puissant comme question. Mais, et donc, nous, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est pas automatique, c'est pas de la magie, mais on va se confesser, on entend « Je te pardonne tes péchés, ego te absolvo ». On va à la messe, on entend « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et déjà au baptême, je te baptise, et je me donne à toi, ou enfin toutes les formules de ça a beaucoup évolué au fil du temps, de mariage. Tout, vous voyez, ce sont autant d'oasis dans le désert qu'est notre existence, par moment, où il est évident avec des pancartes géantes, là, je suis là, viens boire à la source, je t'aime et je te sauve. Imaginez, mettez-vous dans la peau d'un protestant qui n'a pas accès à tous ces actes cultuels où ils sentent, où ils entendent le Christ leur parler, à travers la bouche du ministre. Ils veulent tout de même savoir s'ils sont sauvés ou pas. Ils vont retomber dans la bonne vieille théologie juive de la rétribution temporelle. Je vais avoir des éléments pour savoir si je suis élu ou pas, si je suis destiné au ciel ou pas, en regardant mon compte bancaire, la fécondité des opérations professionnelles, militaires. Vous avez... non, mais c'est comme ça que... vous comprenez un peu la perspective. C'est terrible, quand même, de retomber comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment pour nous une... Il faut en être conscient, je veux dire, alors, user abondamment des sacrements, du coup. Fort que c'est un tel réconfort, on est vraiment des nains, quoi. Si on n'utilise pas, tout le monde passe à coupe, et moi le premier. Ou si on approche des sacrements de manière complètement légère, comme si c'était un dû, ceci est mon corps, bah, j'espère, ouais. Donc, je te pardonne tes péchés. Ah bah, il était temps, tiens. Ah bien, non, c'est déjà assez compliqué comme ça, donc bon. Et puis en plus, je me déplace, un samedi matin, 11h, c'est un peu tôt, hein, quand même. Donc, vous voyez, genre de petites choses qui nous hantent parfois. Ah, puis il y avait 3 bonnes femmes avant moi. Je sais pas pourquoi je dis bonne femme, parce que c'est ce que je dis bonne femme. Non, mais... Ah. Oui, non, non, non. Et bah, c'est un homme en robe qui vous dit ça, en fait. Voilà. Mais, vous voyez, c'est... Voilà. Et j'avais pris comme exemple... Enfin, j'avais... ce qui m'avait... poussé vers cette réflexion-là, c'était le bouquin de Colosimo, Dieu est américain. Colosimo, c'est, j'avais dit l'année dernière, Jean-François Colosimo est un théologien de l'Institut Saint-Serge, institut orthodoxe parisien, et journaliste bien connu, j'espère, nous tous, et qui a fait un état des lieux, je trouve, extrêmement pertinent de la mentalité nord-états-unienne. Voilà. Dont il explique qu'ils ont été fondés par des pères fondateurs qui étaient tous d'essence calviniste, à l'origine, les WASP, et qui ont une vraie quête spirituelle. Alors, comme tout un chacun a son pécheur, mais enfin, et que la mentalité nord-américaine, surtout dans les États à dominante protestante, s'explique par cette quête spirituel de savoir si Dieu nous sauve ou pas. Ça les rend moins odieux. Non mais, parce qu'on comprend cette manière un peu grossière, enfin, ils ont d'immenses qualités que nous n'avons pas, mais un pragmatisme, une capacité d'adaptation, là, bon voilà, je ne vais pas commencer à dresser, je ne suis pas là pour vanter les États-Unis quand même, mais en revanche, il y a vraiment quelque chose d'enfantin, quoi, dans la manière de se montrer avec son fric, avec son... Bonjour, tu viens combien? Non mais voilà, bon, bref, je ferme la parenthèse, parce qu'il faut qu'on revienne au Christ, à son Église et à ses sacrements. J'avais dit 5 minutes, tu parles. Ah ouais, c'est bon, j'ai encore 2 minutes. Non mais des minutes, ça longe à mesure que... Voilà, il est 51. Et dans 2 minutes, il sera... Alors donc... Je finis la définition, ça n'a pas de sens. C'est grave. Donc, pour produire ou augmenter la grâce en nous. La grâce, c'est la vie divine. Enfin, vous allez voir, c'est très court. Et après, on va détailler au gré des sacrements. La grâce, c'est la vie divine. Gratia, en latin, c'est le don gratuit. Voilà. Charis, en grec. Dieu donne en différentes occasions sa vie divine. En fait, même, il offre à tout être humain, dans les sacrements, hors les sacrements, dans des religions qui peuvent même être complètement dévoyées, Dieu intervient. Je ne fais pas de ces religions des éléments indispensables, voulus par Dieu. C'est parce que je n'entre pas dans ces espèces de pièges. Je ne dis pas ça, je dis simplement que Dieu est capable, on dit que Dieu est au-delà des sacrements. Son but, c'est que tout homme soit sauvé, tout être humain, et il va utiliser tous les moyens pour hameçonner sa créature. Et donc, on verra, quand on parlera du baptême, du sacrement de baptême, les ruses incroyables qu'utilise Dieu pour que la grâce baptismale puisse être communiquée même hors du sacrement de baptême. Je ne pars pas dans les grands délires, c'est vraiment la doctrine la plus orthodoxe. Et, vous avez dit, on peut dire, il y a dans les sacrements une sécurité et une plénitude de grâce qui nous est accordée. Cette grâce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Encore une fois, Dieu peut la donner ailleurs, mais c'est compliqué. Il y en aura. La grâce sanctifiante, vous savez, on distingue plein de types de grâce. Alors évidemment, c'est toujours un peu hasardeux de commencer à décrire par le menu, vous voyez, ou au scalpel, à essayer d'analyser comme le tableau de Mendeleïev, là, avec les différents... Non, c'est un mystère, c'est la vie de Dieu dont on est en train de parler. Mais néanmoins, on est obligé, les théologiens sont obligés quand même d'investiguer, et ils distinguent un certain nombre de types de grâce, voilà, de plus ou moins large facture. C'est la grâce qui nous est donnée dans les sacrements, en fait, il y en a plusieurs, mais la grâce principale, c'est la grâce sanctifiante. C'est celle qui fait de nous des saints. Et les pères de l'Église ne s'y trompaient pas, et surtout, en amont, saint Paul ne s'y trompait pas, lorsqu'il écrit dans ses épîtres, désolé d'être un peu monomaniaque ou répétitif, mais c'est un truc que je ne pardonne pas aux nouveaux lectionnaires, francophones en tout cas, c'est d'avoir trahi en disant « Moi, Paul, le moindre de tous les fidèles, ou Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux fidèles qui sont dans l'église de machin. » C'est pas mal, bel effort, Paul. Mais en fait, le terme originel, c'est les saints. À moi, le moindre de tous les saints. Paul, apôtre du Christ, au sein de l'église de Nana. C'est beaucoup plus puissant. Il est en train de nous expliquer que parce que l'on communie aux choses saintes, les sancta, en latin, parce qu'on communie au sacrement, en fait, alors on devient des saints, des sanctis. Ah, mais c'est génial, on n'est pas seulement des fidèles, on n'est pas seulement ceux qui ont la foi, si vous voulez. On est beaucoup plus que ça. On est divinisé, il faut oser quand même reconnaître notre dignité. On est divinisé. Bon, alors après, il faut entretenir cette divinité. C'est un peu encombrant de voir la divinité, je ne sais pas pour vous, mais... Voilà, on t'entend... On aimerait bien, on y arrive assez bien à s'en départir, mais voilà. Et donc, la grâce sanctifiante, qu'on appelle encore l'état de grâce. Voilà, justement, qui nous dit bien qu'on est dans un bain, dans un état, c'est stable. Tant qu'on ne pose pas la preuve grave contradictoire, tant qu'on ne chasse pas la grâce indifférente, mais on est un saint. Voilà. Et si on y est, que Dieu nous y mette. Si nous n'y sommes plus, que Dieu nous y mette, comme dirait Chandar. Vous voyez, on l'appelle encore d'un autre nom, la grâce habituelle. Non pas que ce soit la grâce qu'on trouve en allumant le robinet, là, la grâce pépère, habituelle, ça pourrait donner l'impression de ça. Ouais, c'est assez habituel, hein, c'est un peu coutumé. Non, c'est la grâce habituelle, parce qu'elle met en nous un habitus, une disposition stable. La vertu de la sainteté. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc le canal ordinaire de la grâce sanctifiante, ce sont les sept sacrements. Ça va pour l'espèce de... C'était pas trop... Bon. En tout cas, il est l'heure, puisqu'il est 21h53. 56. Voilà, merci beaucoup de votre patience et à la prochaine fois. Nous allons confier...